As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Looking for the best place to buy tickets for any of your favorite teams or sporting events? We've got the spot. Our partner, StubHub, has been the leading ticket marketplace in the world for over 20 years, providing a 100% guarantee with every order. From a worldwide selection of live events, the widest choice of tickets and industry-leading partnerships, StubHub has what you need to purchase with confidence. StubHub, an official partner of The Athletic.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athletic, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par Athletic.com en ce mercredi 27 octobre. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu qui nous parle directement de San Jose. Bonjour monsieur.
Salut.
Comment ça va?
Ah, ça va bien. Je suis en Californie, alors c'est le fun. Ça fait longtemps. En fait, je me suis rendu compte que San Jose était ma destination comme le journée après que la saison a été annulée ou mis en pause. Mm-hmm. Je quittais pour San Jose le lendemain, si je ne me trompe pas. Ils jouaient contre les Sabres à la maison à Montréal ce journée-là. Puis ils entamaient leur voyage dans l'Ouest juste après. Alors, je pense que j'étais supposé être ici à San Jose ce jour-là. Alors, je me suis rendu compte aujourd'hui en marchant dans les belles rues de San Jose que ça fait 20 mois que j'étais supposé être ici, puis finalement, je suis arrivé.
Oh, c'est correct. C'est mieux vaut tard que jamais. Toujours agréable. C'est une des villes les plus agréables de la Ligue. Je comprends tout à fait les joueurs d'aimer évoluer là-bas. Mais écoute, c'en est assez de notre rubrique touristique. Aujourd'hui, écoute, pour un épisode quand même assez chargé du Super Athletic. Évidemment, on va discuter des implications pour le Canadien d'avoir commencé le voyage dans l'Ouest américain de la manière dont il l'a fait mardi soir à Seattle. Question également du dossier Shea Weber qui, à défaut d'avoir progressé, a causé des remous dans les dernières heures. On va revenir également sur un élément de notre calepin de cette semaine co-signé par Arpin et moi qui portait sur Jesperi Kotkaniemi et les négociations pour une potentielle transaction qui ont précédé finalement l'offre hostile déposée par les Hurricanes de la Caroline. Mais tout d'abord, retour en arrière, retour sur la sixième défaite en sept matchs du Canadien. Arpin, on va commencer par le plus petit, si tu veux bien, avant de se tourner vers le plus grand, parce que je veux vraiment te demander ce qui peut être fait pour relancer cette équipe-là. Mais tu étais à Seattle mardi, tu es à San Jose maintenant. Qu'est-ce que tu vois de cette équipe-là présentement?
Ben, ce que je vois et ce que je sens en parlant aux joueurs, c'est que tu sais, ça revient tout le temps. Tu sais, Josh Anderson l'a dit très clairement après la défaite contre Seattle. Première victoire pour Seattle sur leur glace dans leur aréna absolument spectaculaire à Seattle. que, tu sais, les entraîneurs, à chaque match, ils ont un plan de match très détaillé. Et le job des joueurs, c'est de l'exécuter, d'aller sur la glace, puis suivre le plan de match. Alors, c'est pas la première fois qu'on entend ça, non seulement cette saison, mais même la saison passée, où jour après jour, défaite après défaite, les joueurs du Canadien avaient le même, plus ou moins le même discours, la même parole, en disant que, tu sais, le plan de match de Dominique Ducharme, c'est quelque chose qu'on comprend, c'est quelque chose qu'on croit en ce plan de match-là, on croit à cet entraîneur-là, mais pour une raison qui nous échappe, je parle dans le voix des joueurs, on n'est juste pas capable d'aller sur la glace puis de l'exécuter. Puis, tu sais, l'année passée, il y avait comme un raisonnement quand même assez valable, que Dominique Ducharme est arrivé en plein milieu d'une saison. Une saison déjà chargée, qui est rendue plus chargée à cause de leur pause COVID qui était forcée avec Yoel Armia qui teste positive. Alors, tu sais, il y avait quand même une bonne excuse. Pourquoi le groupe d'entraîneurs mené par Dominique Ducharme n'était pas capable de faire en sorte que ces joueurs-là soient capables de suivre leur plan de match? Là, c'est plus le cas. Là, les circonstances ont changé. Il y a un calendrier normal, avec une cadence normale. Il y a eu tout un camp d'entraînement. Il y a eu beaucoup de temps pour faire en sorte que ces joueurs-là soient capables de suivre un plan de match. Puis quand tu regardes le match contre Seattle, c'était clair que de se rendre la zone défensive jusqu'en zone neutre, puis passer à travers la zone neutre pour rentrer dans la zone offensive avec la vitesse, c'était pas facile. Non seulement c'était pas facile, il était juste pas capable de le faire. C'était rare contre Seattle et c'était rare contre San Jose avant ça. Dans le fond, c'était rare dans tous les matchs, à part peut-être celui contre la Caroline, les Rangers, et évidemment contre Détroit, leur seule victoire, où les Canadiens ont été capables d'aller d'une zone à l'autre, puis finalement arriver en zone offensive avec du rapidité, avec la vitesse, puis devenir menaçant offensivement. Alors, la question que moi je me pose et je me demande, c'est clair que les joueurs croient en Dominique Ducharme, mais est-ce que son plan de match, est-ce que son système, est-ce que ses philosophies sont trop compliquées ou trop difficiles pour ces joueurs-là d'exécuter sur la glace? Et puis si c'est le cas, un bon entraîneur devrait avoir un plan de match ou un système qui est taillé à ces joueurs-là. Alors, tu ne peux pas changer les joueurs, mais le plan de match, tu peux le changer. Peut-être que ce serait temps de le faire et peut-être de le simplifier un peu.
Ouais, ça, c'est. J'ai tendance à croire la deuxième option. Puis c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de difficultés. Parce qu'il me semble qu'il y a un équilibre à trouver pour un entraîneur entre suivre les choses auxquelles il croit, c'est-à-dire qu'il va. Il va établir un plan de match, il dit, bon, mais il y a des principes que je veux établir, voici ce en quoi je crois, puis tu sais, je peux pas vendre autre chose que ce en quoi je crois. Fait que c'est normal qu'il y ait des choses qui soient immuables, mais il y a toute une part aussi qui doit être ajustée ou remodelée en fonction du personnel que tu as sous la main. Puis j'ai l'impression que, Claude Julien, qui n'avait pas eu des débuts convaincants avec le Canadien à sa première saison. Rappelons-nous que c'est ça qu'il a fait à un moment donné. Quand il est arrivé à sa deuxième année, il a fait « OK, là, j'ai pris le pouls de l'équipe que j'ai sous la main. Je constate que pour que les choses fonctionnent, il y a des choses que je dois changer, que je dois ajuster. » Puis il a un peu lui-même plongé dans le vide. Il a gardé certains principes auxquels il croyait le plus ardemment. Mais il a adapter des choses dans son système de jeu en fonction des joueurs qu'il avait sous la main. Puis là, je pense qu'on arrive dangereusement proche d'un moment où peut-être que Dominique Ducharme va devoir faire la même chose, mais ce que je trouve délicat, c'est que, dans le fond, toute la démarche de Marc Bergevin durant la saison morte, ça a été de remplacer des joueurs qui ont quitté ou qui ne sont plus capables de jouer par des joueurs de profil semblable. Ce qui fait que, en principe, le Canadien n'aurait pas eu à changer son style de jeu puis à dire il faut tout réinventer. Parce que, dans le fond, la recette, même si les joueurs ont changé, le profil de joueur demeure le même. C'est un petit peu ça devrait être un peu plug and play. Et ce qui fonctionnait avant, ben, tu utilises ce même template-là, puis ça devrait fonctionner avec ces joueurs-là. Et or, manifestement, ça ne fonctionne pas. Puis l'autre chose qui me titille un petit peu, c'est que autant le Canadien a eu du temps pour pouvoir établir son système de jeu, ceux qui étaient là l'année dernière puis qui ont eu du succès avec en séries éliminatoires devraient le connaître. Mais qui s'est illustré le moindrement depuis le début de la saison, surtout à l'attaque, c'est Dvorak, c'est Hoffman, c'est Drouin par moment. Ça a été le tour du chapeau de Perrault. Ça a été les gars qui n'étaient pas là, là le printemps passé. Fait que, tu sais, il y a quelque chose dans cette équation-là qui n'arrive pas. C'est que soit que c'est les gars qui n'étaient pas là le printemps passé qui se distinguent et pour une raison X, Y, Z qui a peut-être lieu à voir, je ne sais pas, je sais que Guy Boucher a suggéré à RDS qu'il devrait y avoir un gros lendemain de veille de la part des joueurs du Canadien par rapport à leur présence en finale de la Coupe Stanley, puis c'est une grosse marche de laquelle descendre. Mais les nouveaux ont eu le même temps, ont eu moins de temps pour apprendre le système, puis il y en a certains d'entre eux qui ont réussi dans l'ensemble à avoir de bons matchs. Fait que, il me semble que dans tout ça, là, il y a quelque chose qui accroche, qui ne fonctionne pas, puis qui nous prouve que cette équipe-là, comme on l'a si souvent entendu de la bouche des joueurs et des entraîneurs, est déconnectée, n'est pas connectée entre elles.
Oui, non, je suis entièrement d'accord. Oui, oui, non, je viens de faire un drouin, mais oui, je suis entièrement... drouinisme, oui. Je suis entièrement d'accord. T'sais, on l'a entendu encore après le match contre Seattle. La semaine passée, c'était Dominique Duchamp qui l'a dit plusieurs fois pendant une seule conférence de presse, ce terme-là, déconnecté, disconnected en anglais. Jeff Petrie l'a dit hier, après le match contre Seattle, qu'ils sont disconnected. C'est vraiment un thème qui revient parmi plusieurs. Et c'est ça l'affaire. En fait, ce que je trouvais le plus frappant après le match contre Seattle, c'est que je pense que c'était moi, mais en tout cas, il a été demandé que... sa première question, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile à digérer ce soir-là, après ce match-là? Qu'est-ce que tu as le plus de misère à accepter après cette performance-là? Puis il dit... il a pris une pause, il a pensé à sa réplique, puis il a dit que c'est la même chose. C'est la même chose que notre match contre San Jose, c'est la même chose que notre match contre Buffalo. Ça reste la même. Et il y a plusieurs... aspect du jeu du Canadien qui évolue pas. Cette jeu de transition évolue pas. Avoir plus de support pour la rondelle évolue pas. Il y a encore beaucoup de distance entre les joueurs du Canadien par rapport aux rondelles, par rapport à leur coéquipier. C'est quand même une philosophie de base du système de Dominique Duchamp que vous soyez 5 gars reprochés, puis vous montez tout au long de la glace, ensemble, en groupe de 5, avec beaucoup de sport, puis avec créer des deux contre eux dans les batailles aux différents endroits de la glace, que ce soit défensive, zone offensive, neutre, peu importe, c'est de créer ces deux contre un. Ce sont certains principes de base que Dominique Duchamp, que son système est basé dessus. C'est vraiment des croyances non négociable, comme il aime dire. Puis de là, il y a toutes sortes de petites choses qu'il essaie d'implémenter ici et là, mais ces deux choses-là, il faut absolument l'avoir. Un groupe de 5, en bon support, pas trop éloigné, des courtes passes, et créer des deux contre un dans n'importe quelle situation où il y a une rondelle à gagner. Ils font ni l'un ni l'autre. Alors, et c'est ça de quel... Petrie parlait du fait que c'est la même chose, c'est ça qui est la même chose. C'est ces principes de base-là qui constituent l'identité de l'équipe, qui est un terme qui est quand même assez difficile à définir, mais pour les Canadiens, je pense que c'est assez clair que c'est ces choses-là qui leur ont donné du succès en série l'année passée. C'est ces choses-là sur lesquelles le système est basé. C'est ces choses-là que les joueurs, ils croient en ces choses-là. Ils croient que s'ils font ces deux choses-là, ils vont avoir du succès.
Oui, mais quand tu regardes certains joueurs, tu sais, je pense par exemple à un gars comme Anderson, par exemple, qui, tu sais, Josh Anderson, qui est toujours prêt à décamper puis à recevoir l'espèce de bombe pour pouvoir profiter de sa vitesse puis essayer de s'échapper. Il est prêt à... il est prêt à sauter à l'attaque, puis tu sais, à quitter son territoire rapidement. Puis il y en a d'autres qui ont un peu ce pli-là également. Quand tu as ce réflexe-là de vouloir battre de vitesse la défense adverse en ayant un pas sur elle, puis pouvoir te glisser derrière elle, c'est bien beau d'avoir ces instincts offensifs-là, mais ça va contre l'idée de rester proche pour pouvoir te déplacer en unité de 5. Puis, tu sais, on l'a vu chez Toffoli également depuis le début de la saison. Hoffman, c'est pas ces principes-là qui sont nécessairement son fort non plus. Tu sais, c'est un peu bizarre parce que le Canadien a un arsenal d'ailiers qui sont capables de marquer des buts, mais là, c'est une équipe qui a été affaiblie sur sa ligne de centre, donc qui est moins à même d'alimenter ces ailiers-là. Puis t'as certainement pas une brigade défensive qui est dans les meilleurs de la ligue pour pouvoir déplacer la rondelle puis pouvoir relancer l'attaque à partir de la ligne bleue. Fait que c'est le fun d'avoir des gars qui sont capables de la mettre dedans puis techniquement qui sont d'avoir 6 ou 7 marqueurs de 20 buts. Mais sauf que on dirait que c'est comme si ces gars-là, c'est les feuilles dans les branches d'arbres, mais là, il te manque des branches. Fait que les feuilles, à un moment donné, ils vont faire comme quand je regarde à travers la fenêtre, les feuilles tombent, là, tu sais. Parce que il manque des éléments. Alors, peut-être, c'est là où je reviens à ton propos de départ, de savoir est-ce qu'il y a quelque chose dans ce système-là qui doit être vu à la lumière de ce que le Canadien a vraiment sous la main, autant à la ligne bleue que dans sa ligne de centre.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, une chose qui me dérange un peu depuis le début de la saison, puis depuis que le Canadien en arrache, c'est ce principe-là qui manque des éléments que tu sais, le départ de Weber fait mal, oui, évidemment, ça fait mal. Le départ de Dano fait mal, le départ de Kotkaniemi, peut-être, il n'y a pas grand monde qui dit ça, mais c'est vrai qu'il est quitté, puis c'est un de leurs centres, top 9, que ça fait mal aussi. C'est différent de Corey Perry, Eric Staal, tu sais, tout le leadership qui est parti, mais tu regardes la formation actuelle, puis... T'sais, écoute, David Savard va jamais être chez Weber, là, mais c'était pas... C'était quand même un remplacement qui avait du sens ou qui avait de l'allure étant donné les choix qui étaient disponibles aux Canadiens sans aller chercher un défenseur vedette puis payer 8-9 millions pour un gars comme Dougie Hamilton, par exemple. Sans faire ça, un gars comme David Savard me semblait comme étant quelqu'un de... Tu sais, un bon choix. Dans le fond, un bon rapport qualité-prix pour... puis un gars qui rentre dans le style de Shea Weber, même s'il n'est pas aussi efficace, pas aussi physique, pas aussi rien. Dans le fond, il n'est pas capable de faire tout aussi bien que Weber le faisait, mais quand même, un remplacement qui avait de l'allure. Kotkaniemi quitte pour la Caroline. Ils vont chercher le joueur de centre qui vient le plus proche possible, je pense, de remplacer ce que Philippe Dano a amené. Un gars qui gagne ses mises en jeu, un gars qui est responsable sur 200 pieds, en Christian Dvorak, évidemment. Un gars qui a quand même du talent offensif, qui est très bon, très responsable dans sa zone. Je pense pas que tu aurais pu demander mieux que ça en termes de remplacement pour Philippe Dano.
Non.
Que d'avoir Christian Dvorak. Alors, tu sais, oui, je comprends, il y a eu des départs, mais il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Moi, je dois dire que Mike Hoffman, honnêtement, les matchs qu'il a joué à date, il m'impressionne. C'est un meilleur... jusqu'à maintenant, il joue beaucoup mieux que je m'attendais de lui. C'est pas un joueur qui est aussi unidimensionnel que je pensais. Il y a des choses qu'il fait bien. Je pense que c'est quand même un pas pire fabricant de jeu, que je pensais pas qu'il y avait ça dans son jeu. Il fait plus de choses que juste lancer les rondelles, et je pensais que c'était vraiment la seule chose qu'il était capable de faire, et je pense que je sous-estimais un peu. Puis, alors, tout ça pour dire que cette idée-là que le Canadien a un flagrant manque de personnel, I don't buy it. T'sais, je trouve pas que c'est aussi drastique que ça en termes de talent sur le roster. C'est le fait que c'est que ces gars-là sont juste pas capables de suivre un système, ils sont pas capables de jouer ensemble en ce moment. Puis honnêtement, là, c'est moi, j'aime défendre Dominique Duchamp parce que je trouve que c'est un bon coach. Mais à un moment donné, c'est le job du coach de faire en sorte que le talent que tu as sous le main joue ensemble. Puis ce groupe-là, depuis 2 semaines, ne joue pas ensemble du tout. Et ça tombe sur l'entraîneur plus souvent que non.
Mais là, si on regarde, je pense que depuis le début, depuis son arrivée derrière le banc du Canadien comme entraîneur-chef, en saison régulière, il ne joue pas pour 400. Alors là, ma question est la suivante. Là, on sait qu'on en a parlé, on a écrit à ce sujet-là le printemps dernier que le Canadien était une équipe bâtie pour les séries éliminatoires. D'ailleurs, la brigade défensive, par moment, la saison dernière, en arrachait autant, sinon plus, qu'elle le fait en ce moment. Puis, tout était rentré dans l'ordre une fois arrivé en séries éliminatoires. Mais encore faut-il s'y rendre. Là, la question que je me pose, c'est combien de temps Marc Bergevin, puis combien de temps Jeff Molson aussi vont tolérer la situation actuelle? Est-ce que tu penses que l'état-major du Canadien va se montrer prêt à abandonner cette saison-ci si ça lui permet de rebondir, d'être meilleur à long terme? Ou est-ce qu'à ton avis, l'équipe va s'acharner en essayant de trouver une solution à court terme pour essayer absolument, à tout prix, de faire quelque chose avec le groupe qui est là? Parce que, écoute, Dominique Ducharme, là, il vient de signer un contrat de 3 ans. C'est tout nouveau, tout beau pour lui. Ils ne mettront pas dehors en disant que son message passe plus et il a perdu son vestiaire. Là, tu sais. Je sais où se trouve la solution. Là. Qu'est-ce que tu fais?
Ben oui, je suis d'accord qu'ils vont pas remplacer Dominique Ducharme. Je pense pas que la prolongation de contrat, c'est une chose, c'est un facteur là-dedans, mais on a déjà vu des cas. Je pense aux Maple Leafs, entre autres, qui ont signé Ron Wilson à la prolongation de contrat le jour de Noël et l'ont congédié 3 mois plus tard. Puis c'était quand même, je me rappelle pas combien d'années, mais c'était quand même une prolongation assez importante. Puis depuis qu'il a signé cette prolongation-là, les Leafs se sont mis à perdre. Puis 3 mois plus tard, il y avait plus de job. Alors, mais tu sais, la situation contractuelle de Marc Bergevin fait en sorte que ça influence tellement de décisions, mais celui-là particulièrement, parce que disons que ça continue de même. Moi, si j'étais Jeff Molson, je dirais que, écoute, Dom, il va falloir que Dom fait le mieux qu'il peut parce que je ne vais pas te permettre d'engager un autre entraîneur en ce moment, sauf s'il veut donner le job à Luke Richardson jusqu'à la fin de la saison ou quelqu'un qui est déjà sur place. Ouais. Parce qu'étant donné que les chances sont quand même assez bonnes, ça a l'air que le Canadien va avoir un nouveau directeur général la saison prochaine. Tu veux pas engager quelqu'un puis l'imposer au nouveau DG. Là. Tu sais, c'est un peu... Ça tombe... Je veux pas dire que ça tombe bien, mais si jamais ça continue, tu sais, le Canadien pourrait très facilement congédier Dominique Ducharme à la fin de la saison. Marc Bergevin s'en va ailleurs en fin de contrat. Puis tu amènes un nouveau DG, puis tu donnes au nouveau DG la chance d'engager son coach. Ce qui est d'habitude une courtoisie qui est quand même donnée au DG qui arrive. C'est le poste le plus important qu'il a à combler. Alors tout ça pour dire que je pense qu'à cause d'un paquet de circonstances, son contrat à lui est inclus là-dedans, que Dominique Ducharme va avoir l'opportunité de rendre ça, d'essayer de sortir de ça. Mm-hmm. Va avoir toute la patience au monde et c'est difficile à savoir à quel point Marc Bergevin est libre de faire comme il veut sur plusieurs aspects, mais incluant celui-là, évidemment.
Ben, écoute, je vois mal le Canadien congédier Dominique Ducharme puis embaucher un nouvel entraîneur en cours de saison quand Claude Julien est encore sous contrat avec l'équipe. L'équipe paye encore Claude Julien. Fait que tu ne paieras pas 3 hommes pour un seul qui est véritablement derrière le banc. Tu sais, fait que tu comprends. Là, c'est la dernière année du contrat de Claude Julien. Je serais pas surpris qu'il se trouve du boulot après cette année. Là, pour l'instant, s'il y a une équipe qui est intéressée à lui, probablement à un prix qui est inférieur à ce que le Canadien le paie en ce moment, il doit peut-être se dire « je vais attendre l'année prochaine ». Mais à la fin de l'année, le Canadien ne l'aura plus dans les livres. Peut-être qu'à ce moment-là, il va se dire « ok, ben je vais… on peut se permettre, si on le juge opportun, de remplacer Dominique Ducharme par un autre, mais sauf qu'il faut aussi, je pense, lui laisser le temps d'arranger les choses puis de voir si il y a quelque chose à faire avec la formation telle qu'elle est présentement constituée.
Bien, dans le fond, les circonstances achètent du temps à Dominique Ducharme. C'est ça que je pense dans le fond, dans cette situation-là, c'est que peut-être dans d'autres circonstances, si Marc Bergevin avait signé un contrat pendant l'été, si parce que c'est pas comme si Dominique Duchamp gagne beaucoup d'argent comme entraîneur aussi. Là. Il y a comme un salaire de l'entraîneur recrue, ce qu'il est, dans la Ligue nationale au moins. Alors, c'est vrai que le 5 millions de Claude Julien est sur les livres du Canadien cette année, mais je pense que ça tombe bien pour Dominique Duchamp que Marc Bergevin n'a pas eu la prolongation de contrat qu'il voulait, parce que je pense que ça va l'acheter du temps. Alors, lui... T'sais, les Canadiens ont pris congé à San Jose. En fait, ils ont changé leur horaire en plein milieu du voyage. Ils étaient supposés avoir congé vendredi à Los Angeles. Ils ont décidé d'avoir congé ici à San Jose mercredi. Mais j'ose croire que c'était pas une journée relax pour Dominique Ducharme et son staff. Là.
Ouais. Non, c'est ça. Effectivement. On fait une petite pause et on revient à l'instant.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Écoute, je voudrais revenir sur le passage du Canadien à Seattle. Tu me parlais d'un magnifique amphithéâtre. Ça a l'air effectivement assez époustouflant. Mais il y avait un visiteur dans cette aréna-là qui a fait beaucoup jaser. Puis on parle évidemment ici du capitaine Shea Weber. J'ai trouvé que dans cette histoire-là, Jonathan Drouin avait été placé dans une bien drôle de position. Puis c'est facile de dire après coup qu'il a été. Il s'est mis les pieds dans la bouche en allant dire que, dans le fond, Shea Weber est à la retraite. Puis j'ai entendu d'autres personnes sur les ondes dire ah, ben, c'est le genre d'affirmation, le genre d'annonce qui devrait être faite par le joueur lui-même. Mais je trouve que, à quelque part, Drouin était vraiment juste sincère et transparent par rapport à une situation qui, je pense, n'échappe à personne dans l'entourage du Canadien par rapport à Shea Weber. Sauf que l'organisation, jusqu'à maintenant, n'a pas daigné bon apporter des éclaircissements par rapport à ça. Puis je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être trop scrupuleux parce que c'est arrivé déjà par le passé que des joueurs étaient encore sous contrat, n'allaient pas prendre leur retraite, mais c'était clair qu'ils ne joueraient plus. Je pense que Brent Seabrook est un cas quand même assez récent en ce sens-là.
C'est un cas actuel.
C'est un cas actuel, c'est ça.
Il est encore, tu sais, il est un membre du Lightning de Tampa Bay en ce moment.
Ouais. Alors, et là, le fait que Shea Weber ait été à Seattle et qu'on ne l'ait pas, qu'on n'en ait pas profité finalement pour qu'il puisse s'exprimer à lui-même pour essayer de clarifier sa situation ou d'un peu dire où il en est, ben, je pense qu'à un moment donné, simplement au plan des communications, tu t'exposes à ce qu'à un moment donné, bien malgré lui, un joueur, j'ose même pas dire sans farge, parce que je trouve, encore là, je pense que c'est juste c'est une erreur très, très honnête de la part de Drouin où c'est des commentaires très transparents, mais ça fait en sorte que le message n'est peut-être pas géré de manière optimale à cause de ça.
Non, OK. Il y a plusieurs facteurs ici qu'il faut peut-être expliquer que tout le monde ne comprenne pas. Premièrement, Shea Weber a été demandé par un couple de nos collègues, Jonathan Bernier du Journal de Montréal et Marc-André Perrault de TVA Sports. Ils l'ont croisé dans le couloir devant le vestiaire du Canadien. Ils l'ont demandé s'il voulait faire une entrevue. Il a dit non. Il a dit non merci, dans le fond. Il était très poli, il les a salués, mais il préférait pas parler. Ça, c'est une chose. On a demandé plusieurs fois aux Canadiens, ce que vous pourriez peut-être essayer encore une fois, je sais expliquer à Shea qu'il y a beaucoup de partisans qui aimeraient ça, l'entendre parler, que moi, je sais pas si c'est le cas avec toi, mais moi, j'ai reçu plusieurs messages du monde qui disaient, s'il vous plaît, parle à Shea Weber, on veut savoir comment il va. Il y a vraiment un désir des partisans du Canadien de lui parler. Le problème, c'est que, et je pense que c'est pour ça que Shea Weber est mal à l'aise à parler, puis c'est pas pour ça que le Canadien est mal à l'aise qu'il parle, parce que je pense que Marc Bergevin aussi, il a pas donné son approbation qu'il parle, parce que, à ce que je comprends, la Ligue nationale prend beaucoup d'intérêt dans le cas de Shea Weber. Ça leur a pris plus de temps que tu penserais pour approuver le fait qu'il soit sur la liste des blessés à long terme. Ils voulaient faire absolument certain qu'il était légitimement blessé. Et ce qu'ils veulent pas, c'est que ça soit une retraite qui est juste pas dit comme une retraite. La raison pour laquelle, premièrement, une raison, c'est parce qu'il a tellement joué en série, il a tellement bien joué en série, puis tout d'un coup, il était tellement blessé qu'il est plus capable de jouer. Alors ça, c'est une raison que la Ligue a pris un petit peu d'extra soin en vérifiant la situation de Shea Weber. L'autre chose, c'est à cause des pénalités qui viennent avec sa retraite. Et s'il prend pas sa retraite juste pour épargner les Predators de Nashville de cette pénalité-là, ça serait une autre chose qu'il voudrait checker. Mais le problème avec Shea Weber, c'est que je pense que tout le monde sait que la première question qui va être demandée à Shea Weber, c'est est-ce que tu pourrais peut-être revenir à jouer l'année prochaine? Il n'y aurait aucun problème qui va devant les caméras puis dit honnêtement, je sais pas. Je l'espère, mais je sais pas en ce moment. Je veux pas fermer la porte à ça. Je tiens à ça. J'espère faire ça. Mais je sais pas. Le problème, c'est que peut-être ça serait pas 100% honnête. Et ça va... C'est le message que ça enverrait si aller devant les caméras puis dire effectivement, non, je pense pas que je pourrais jouer encore. Ça va devenir un problème avec la Ligue nationale. Tout ce que je disais, c'est que je pense que la Ligue nationale suit son cas régulièrement. Et je suis sûr que si la saison prochaine, il n'est pas capable de jouer, le Canadien va falloir démontrer, faire des preuves avec la Ligue nationale que ses blessures ne lui permettent pas de jouer. C'est ça le cas en ce moment, comme je le comprends. Et tu sais, notre collègue Pierre Lebrun avait sorti juste avant la fin de la saison que ce journée-là, en fait, c'était le jour avant la saison commence, que c'était ce journée-là que la Ligue avait donné son approbation que Shea Weber soit mis sur ce liste-là. Mais c'était pas aussi facile et aussi évident, selon ma compréhension à moi, que c'était pas un slam dunk comme t'aurais pu penser. T'sais. Alors, il y a cet aspect-là aussi. T'sais, je pense pas que le Canadien était super heureux que Jonathan dise ça. Il aurait peut-être préféré qu'il dise pas ça, qu'il aurait juste mentionné que... T'sais, personne n'a demandé à Jonathan est-ce que tu penses que Shea Weber va prendre sa retraite. C'est quelque chose qui est juste sorti de lui-même. Et ça me surprendrait pas, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais ça me surprendrait pas si quelqu'un de la Ligue n'a pas appelé au Canadien aujourd'hui pour demander mais comment ça se fait que Jonathan dit ça. Alors, c'est une situation qui est plus délicate, je pense, que le Canadien veut le laisser savoir, mais il y a une certaine malaise dans toute cette situation-là avec Shea Weber qui existe, que je comprends pas vraiment. Je comprends pas pourquoi il y a cette malaise-là, parce que, comme tu as bien mentionné, il y a Brent Seabrook, il y a plusieurs cas, Dave Bolin dans le passé, Chris Pronger, Marian Hossa en était un gros, mais dans le cas de Marian Hossa, ça aussi c'était très délicat avec la Ligue à l'époque. Mais c'est pas comme si ça serait le premier joueur d'être dans cette situation-là, mais pour une raison que j'ignore, la Ligue nationale le prend pas mal sérieux.
Ouais, ben écoute, je pense qu'à partir du moment où si le Canadien devait atteindre les séries éliminatoires et que Shea Weber ne ferait pas de retour miraculeux à la Nikita Kucherov, à partir de ce moment-là, je pense que tous les doutes qu'a la Ligue nationale devraient être dissipés à ce moment-là, puis ils devraient être rassurés dans le fait que le Canadien n'essaie pas de leur remplacer une petite vite dans le cas de Shea Weber.
Ouais, sauf si le Canadien ne fait pas les séries. Puis si le Canadien ne fait pas les séries, ils ne peuvent pas faire cette preuve-là. C'est ça l'affaire, puis soyons honnêtes, là, c'est les chances que le Canadien fasse. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais, ça va revenir à la saison prochaine C'est quelque chose qu'il va falloir... Une chose est certaine, c'est quelque chose que la Ligue va suivre de près probablement pendant la durée de son contrat qui vient à échéance en 2026. Alors, c'est quand même longtemps. Mais ce qu'ils veulent pas, c'est qu'un gars qui est comme physiquement capable de jouer soit mis sur la liste des blessés à long terme parce que ça lui tente plus de jouer. Parce que si ça te tente plus de jouer, il faut que tu prennes ta retraite. C'est pas... Mais si tu es légitimement blessé, comme je crois que Shea Weber, il l'est, parce que une chose que je peux dire sans avoir lui parlé, c'est que c'est pas ça que Shea Weber voulait. Il voulait pas ça.
Ce gars-là veut jouer au hockey, là.
Il veut jouer au hockey, puis il voulait compléter son contrat, mais je pense qu'après la saison qu'il a vécue l'année passée, avec tout ce qu'il fallait qu'il fasse à chaque jour pour être prêt à non seulement jouer, mais à s'entraîner, que le hockey est devenu lourd pour ce gars-là. Et c'était beaucoup plus difficile que d'habitude. C'était un engagement beaucoup plus lourd qu'avant. Et que finalement, quand la saison était terminée, il était comme, je peux pas jouer au hockey comme ça le reste de ma vie, tu sais, ou le reste de mon contrat. Alors, on verra. C'est un dossier qui est définitivement à suivre, puis il n'est pas clos. Peu importe ce que Jonathan Drouin a dit, il n'a pas pris sa retraite, puis aussi longtemps qu'il ne le prend pas, la Ligue va suivre son dossier de près, ça c'est certain.
Si je peux me permettre une dernière question à ce sujet-là. Tu sais, il était question, évidemment, à chaque fois qu'il est question de la retraite possible de Shea Weber ou du fait qu'il pourrait ne pas rejouer, on ressort les questions de pénalité contractuelle, le fameux cap recapture, type de pénalité qui est en voie de disparition, étant donné que les contrats auxquels qui sont admissibles à ce type de pénalité-là ne sont plus octroyés depuis longtemps dans la Ligue nationale. Sauf que Shea Weber, d'ailleurs, le règlement a été amendé et ça allège un tout petit peu les pénalités auxquelles des équipes intéressées seraient soumises. Dans le cas de Shea Weber, on sait que c'est les prédateurs de Nashville qui pourraient se retrouver avec ce type de problème-là. À ton avis, si la situation doit demeurer la même la saison prochaine dans le cas de Shea Weber, c'est-à-dire qu'il est toujours techniquement en convalescence, il est toujours sur la liste des blessés à long terme, ne prend pas sa retraite, est-ce que tu penses que c'est plus avantageux pour le Canadien de garder Weber sur sa liste des blessés à long terme et profiter de l'espace salarial excédentaire que ça peut lui donner sur le cap? Ou c'est plus avantageux de l'échanger aux prédateurs pour régler leurs problèmes en même temps puis aller chercher des atouts en retour de ses services? Qu'est-ce qui, à ton avis, peut avoir le plus de poids et de valeur pour les Canadiens?
Ah, c'est la porte numéro 2, c'est certain, parce que si tu l'échanges aux prédateurs, tu vas recevoir un choix au repêchage ou un espoir ou peut-être deux ou whatever. Ça serait pas beaucoup, mais ça serait quand même quelque chose. Mais B, c'est l'allègement du fardeau salarial. C'est l'allègement. En gardant Shea Weber, oui, tu peux dépasser le plafond par le montant de son salaire, 7,6 quelques millions de dollars. Mais en l'échangeant, tu libères cet argent-là. Alors, dans le fond, c'est le même résultat dans un cas ou l'autre. Mais dans le porte numéro 2, non seulement tu reçois des atouts, mais aussi tu n'as pas besoin d'aller en LTIR. Tu n'as pas besoin de dépasser le plafond, ce qui complique la vie de tout le monde et ça limite beaucoup la flexibilité du Canadien en termes de ce qu'ils peuvent faire pendant la saison. Ils sont plus capables de, tu sais, tu te rappelles... la saison passée, où ils ont renvoyé Romanov, Suzuki, Kotkaniemi, ils prenaient des tours en allant à Laval, juste comme des transactions papier, parce que le Canadien était en train de sauver de l'argent contre le plafond à chaque fois qu'il faisait ça. Une fois que tu rentres en LTIR, tu peux plus faire ça. Dans le fond, ton montant pour l'année est fixe. Ce qu'on appelle, tu sais, en anglais, on dit tu bank cap space, tu sais, c'est comme un mécanisme où ça te permet de pas rajouter, mais oui, rajouter un peu d'espace sous le plafond salarial à chaque fois que tu fais ces transactions-là.
Alors, tu manufactures de l'espace là, au quotidien.
Ouais, tu crées de l'espace pour l'utiliser aux dates limites des transactions. Alors, dans la porte numéro 1, tu n'as pas cette flexibilité-là. Et tu ne reçois pas d'atout pour Shea Weber. Puis le porte numéro 2, tu reçois les deux choses. Alors, c'est quand même... mais si je suis les prédateurs aussi, je suis comme... Moi, je ne ferais pas ça parce que... Tu sais, ce que le monde oublie dans son cas, c'est que n'y a aucune raison de prendre sa retraite. Disons que la Ligue nationale accepte le fait que ses blessures ont terminé sa carrière, et que sa carrière est finie à cause des blessures qui l'empêchent à jouer en ce moment. Ben, rendu là, chez Weber, aucune raison de prendre sa retraite. Parce qu'il y a des blessures qui ont été causées en jouant au hockey, qui ne permet plus de jouer. Alors, il a droit à tout l'argent qui reste sur son contrat. Là, il est payé 6 millions de dollars cette saison, mais l'année prochaine, ça va quand même être 3 millions. Puis après, c'est 1 million, 1 million, 1 million. Ça n'a pas l'air de beaucoup pour un gars qui a gagné 110 millions au cours de son contrat, mais c'est quand même 3 millions de dollars en faisant rien. C'est comme si quelqu'un allait à quelqu'un qui vaut 200 millions de dollars et dire « Hey, si je te donne 3 millions de dollars, est-ce que tu vas le prendre? » Oui, je vais le prendre, c'est clair. Alors, pourquoi il dirait non à cet argent-là? C'est comme en prenant sa retraite pour aucune raison. T'sais, ça ne changera pas sa vie, prendre sa retraite. Il est déjà rendu au point. Et c'est ça, en fait, la vraie nouvelle que Jonathan Drouin a sortie. C'est qu'il a dit que Shea Weber est déjà rendu dans scouting, puis il est avec Marc Bergevin. Bergevin a fait allusion à un plan qu'il avait pour Shea, mais il l'allait garder pour lui-même. Ben, je pense que Jonathan Drouin l'a dévoilé, ce plan-là. Puis c'était, pour moi, en sortant de cette point de presse-là, c'était pas le mot retraite qui m'a surpris. C'était
le fait qu'il faisait du recrutement.
C'était le mot scouting qui m'a surpris plus que d'autres choses. Alors, mais tu sais, c'est pas. Ça non plus, c'est pas sans précédent, by the way. Si je me trompe pas, je suis pas mal certain, en fait, que Chris Pronger, pendant qu'il est encore sur la masse salariale des Coyotes de l'Arizona, a travaillé dans le département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale. Est-ce que je me trompe là-dessus?
Je pense absolument pas.
Que c'est le cas. Alors, si tu es capable d'aller travailler pour la Ligue pendant que tu es techniquement payé par une équipe de la Ligue, je vois pas comment la situation de Shea Weber devrait être si floue, devrait être scruté à la loupe par la Ligue nationale de hockey. Come on. Il y a un précédent pour ça, puis il faut juste suivre le précédent. Là.
Mais dans le cas de Pronger, par exemple, je pense que c'était particulièrement aberrant. Là. Il a pris sa retraite techniquement. Il a arrêté de jouer en 2013. Sa retraite a été en 2017. Puis si je ne m'abuse, non, il était au moment de sa retraite, au moment où son contrat s'est terminé, je pense qu'il n'était même plus avec la Ligue nationale puis qu'il était dans l'organisation des Panthers de la Floride.
Oui. Il était dans l'état-major des Panthers de la Floride. Pendant ce temps-là, en 2015, il a été élu au Temple de la renommée du hockey. Il a travaillé pour la Ligue nationale de hockey. Toutes ces choses-là sont arrivées avant la fin de son contrat.
Ah oui. Honnêtement, alors,
le fait que c'est sûr Weber qu'il y a un petit précédent pour Marc Bergevin, c'est pas grave. Là.
Non. C'est sûr que si tu te mets à comparer, là, c'est clair que c'est un précédent, celui de Pronger, qui ouvre la porte à un paquet d'abus de la part de n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Mais en même temps, peut-être que la Ligue va dire, bon, dans le cas de Pronger, on a erré puis on est nous-mêmes responsables parce que c'est nous qui l'avons embauché. Mais peut-être que c'est un. Peut-être que c'est une zone grise qu'ils vont vouloir essayer de refermer d'une certaine manière. Mais bon, quoi qu'il en soit, la situation donc de Weber ne changera pas du jour au lendemain. Elle ne changera probablement pas. Je pense que le Canadien s'est fait à l'idée qu'il ne reviendra pas. Puis quand Marc Bergevin, la semaine dernière, a dit que c'était, pour reprendre ses mots, un long shot de revoir Weber dans sur patin, mais je pense que c'est vraiment à ça qu'il faisait allusion. Écoute, dernier item, je voulais revenir avec toi sur un truc qu'on a écrit il y a quelques jours à propos de Jesperi Kotkaniemi, parce que ça a fait quand même réagir sur les réseaux sociaux, ça a circulé un peu par rapport au fait que c'est un item qui était dans notre calepin hebdomadaire. Alors, pour les auditeurs qui ne l'ont pas consulté, on écrivait à propos de Kotkaniemi que, donc, comme tout le monde le sait, à l'heure qu'il est, il y avait eu des négociations pour une possible transaction entre les Hurricanes de Caroline et le Canadien avant que les Hurricanes décident de soumettre une offre hostile pour les services de Kotkaniemi. Le nom de Seth Jarvis avait circulé, le Canadien qui était ouvert à l'idée de faire une transaction si ça lui permettait de mettre la main sur celui qui est devenu le meilleur espoir des Hurricanes de la Caroline, Seth Jarvis, excellent jeune joueur de centre. Évidemment, il y avait une fin de non-recevoir de ce côté-là. Sauf que, Arpin, j'aimerais ça que pour le bénéfice de nos auditeurs, que tu nous donnes un peu l'essence de cet élément-là que tu as amené dans notre calepin, parce que il y a des clarifications sur en quoi pouvaient consister ces négociations-là une fois que Seth Jarvis n'était plus dans le portrait.
Bien, dans le fond, une fois que Seth Jarvis n'était plus dans le portrait, je pense que l'intérêt du Canadien était pas là, dans le fond. L'intérêt venait surtout des Hurricanes de la Caroline. À ce que je comprends, j'ai fait certaines vérifications, puis les Hurricanes de la Caroline, puis ça c'était très bien connu, comme tu viens de le mentionner, ont informé le Canadien qu'ils préparaient à faire une offre hostile pour Jesperi Kotkaniemi. Alors, s'ils voulaient éviter tout ça, ils pourraient trouver un terrain d'entente qui incluait leur premier choix au repêchage, leur choix de troisième ronde au repêchage, et un autre choix au repêchage, je gagerais sur un choix de quatrième ronde probablement, ou un autre espoir dans leur organisation. Un espoir qui se nomme pas, qui va pas par le nom de Seth Jarvis, dans le fond. Alors, ils ont quand même des bons espoirs dans l'organisation des Hurricanes. C'est quand même une pépinière qui a été classée, je pense, sixième par Corey Pronman, qui fait comme un classement de toutes les organisations de la Ligue puis leurs espoirs à chaque année. Mais pas vraiment à cause du talent de pointe qui existe, mais vraiment la profondeur de leur talent dans le système de Caroline. La Caroline est quand même assez impressionnant. Les Canadiens, pour leur part, ont dit non parce que, et honnêtement, je suis pas en désaccord avec ça. Ils ont jugé que l'offre était pas, valait pas Jesperi Kotkaniemi. Et même quand le Canadien a su le prix que Caroline, la valeur de l'offre que Caroline allait faire signer avec Kotkaniemi, et à ce moment-là, sachant qu'il ne serait probablement pas en mesure de matcher l'offre, le Canadien a quand même insisté de ne pas transiger avec les Hurricanes. Une couple de choses là-dessus. Comme on a écrit, évidemment, ce que le Canadien aurait pu faire s'ils ont pris ça au sérieux, et je pense qu'ils ont pris au sérieux, mais s'ils ont sérieusement songé à faire l'échange, c'est que ils auraient pu aller parler au Coyote d'Arizona avant de compléter l'échange, puis dire « Écoute, on est sur le point de recevoir le choix de première ronde des Hurricanes de la Caroline. On peut vous l'offrir pour Christian Dvorak. » Et étant donné que le Canadien ne serait pas en train d'être dans une date limite d'une semaine après une offre hostile et tout ça, les circonstances seraient bien différentes. Puis effectivement, Bill Armstrong, tout ce qu'il voulait pour Dvorak, c'était un choix de première ronde. C'était pas nécessairement un choix top 15, un choix de top 20, whatever. Il voulait un choix de première ronde pour ce joueur-là. Alors, fort probable qu'il aurait dit oui. Et fort probable que le Canadien n'aurait pas eu à dire que oh, Arizona, tu aurais le meilleur des deux choix, sauf si c'est dans le top 10, si je ne me trompe pas. Cet aspect de cet échange-là probablement n'existerait pas. Mais je dois dire...
C'est juste que ça me frappe. Puis je pense que la réaction des lecteurs au sujet à ce sujet-là, ça a surtout été de dire comment ça se fait que le Canadien a jugé que d'accepter l'offre hostile, d'accepter de perdre Kotkaniemi par le biais d'une offre hostile et d'aller récupérer un choix de première ronde puis un choix de troisième était jugé, à son avis, plus satisfaisant puis une meilleure offre que d'aller chercher un choix de première ronde et un espoir qui aurait pu être Dominic Bock, qui aurait pu être Ryan Suzuki, le petit frère de Nick.
Jack Drouin.
Écoute, il y a quand même eu, il y a quand même plusieurs bons espoirs
au Saint-Seb. Je pense que je peux l'expliquer. OK. Parce que dans le fond, imagine-toi, et je pense que tout le monde qui écoute en ce moment, là, si tu étais quand même un peu choqué en lisant ça, puis on n'a pas inclus cet aspect-là dans ce qu'on a écrit dans le calepin. Alors ça, c'est de notre faute, mais imagines-tu que parce qu'évidemment, tu n'aurais pas entendu rien sur une offre hostile. L'offre hostile n'existerait pas dans ta tête. Et tout d'un coup, le Canadien fait une annonce que le Canadien ont échangé Jesperi Kotkaniemi aux Hurricanes de la Caroline contre Ryan Suzuki, un choix de première ronde et un choix de troisième ronde. Ce serait quoi votre réaction? Est-ce que vous aimeriez ça? Est-ce que vous pensiez que ça c'est un bon échange? Même si le Canadien, par après ou en même temps, annonçait que ce choix de première ronde-là allait à l'Arizona en retour de Christian Dvorak, ça serait peut-être un peu mieux. En fait, ça serait beaucoup mieux. Mais quand même, tu penserais-tu que... Penserais-tu pas que le Canadien a échangé Kotkaniemi contre pas grand-chose, même avec l'arrivée de Dvorak? Et je pense que c'est ça le problème. Et l'autre problème, c'est que... À quel point est-ce que le Canadien peut croire que A, le Caroline va faire cette offre-là, et B, que Kotkaniemi va le signer sans avoir vu un contrat signé sur leur... dans leur bureau?
Mm-hmm.
Alors, ça, ces deux aspects-là, ça serait difficile à vendre cet échange-là aux partisans, particulièrement après tout ce qui s'est passé, Kotkaniemi qui commence pas dans les séries, qui termine pas les séries, Bergevin qui a dit ce qu'il a dit à la fin de la saison, que Kotkaniemi doit être meilleur, Ducharme dit que Kotkaniemi doit être meilleur après tout ça, de l'échanger contre essentiellement pas grand-chose, le troisième choix au total, il y a juste 3 ans. Ça serait difficile à vendre ça aux partisans, à mon avis. Et je pense que ça aussi, c'était un facteur là-dedans.
Oui. Ben, écoute, c'est déjà arrivé par le passé, si je ne m'abuse, Brian Burke, qui avait dit, ben, on a procédé à cette transaction-là parce qu'on était sur le point de perdre le joueur par le biais d'une offre hostile. Alors, je pense que...
Non, c'était pas l'inverse. C'est Brian Burke qui est allé chercher Phil Kessel puis a menacé les Bruins de Boston... qu'on va lui faire une offre hostile.
Exact. Alors, c'est notre offre.
Alors, prends-le ou sinon, on va faire l'offre hostile. Alors, oui, c'était tout expliqué par après, mais je pense qu'il y a cet aspect-là de poker que est-ce qu'on croit vraiment que les Hurricanes de la Caroline va faire... Parce que, honnêtement, mets-toi à la place de Marc Bergevin ou n'importe qui dans son bureau, puis les Hurricanes de la Caroline dit on va offrir à Jesperi Kotkaniemi un contrat d'un an qui vaut 6,1 millions de dollars, ta réaction serait quoi comme?
Non, il n'y a personne qui le croyait.
Voyons donc, c'est qui ferait ça, là? Alors,
ils l'ont fait, eux autres!
Ils l'ont fait! Alors, c'est ça, c'est facile par après de dire « Ah, il aurait dû faire ça, ça et ça. » Sauf que les circonstances de cette offre-là sont quasiment sans précédent. Là. Dustin Penner, c'est la seule autre situation qui était semblable. Le joueur qui n'était pas une vedette, il y avait peut-être un peu de potentiel. Kotkaniemi en a pas mal plus que Dustin Penner avait à l'époque, sauf qu'il fallait vraiment surpayer un gars pour que les Ducks le laissent partir, qui était encore une fois Brian Burke à Anaheim à l'époque. Mais c'est ça. Je pense que ça, c'est une partie de cette histoire-là qu'on a pas inclus dans le calepin. Mais c'est un facteur, je pense, du côté du Canadien qui a probablement influencé pour dire « OK, vas-y, fais-le, puis on verra ce qu'on va faire après, mais si tu veux l'offrir 6,1 millions de dollars, vas-y, be my guest, puis on verra ce qu'on va faire. »
Ben, c'est pour ça qu'on parlait d'ailleurs du fait que le Canadien avait en quelque sorte forcé les Hurricanes à dévoiler leurs mains, dévoiler leur jeu, puis comme on dit en poker, caler leur bluff, là, tu sais.
Ouais.
Alors, c'est effectivement. Alors, c'est... ben voilà, donc ça, c'était un item qu'on... Je pense que c'était... C'est étonné que ça a fait passablement jaser. C'était intéressant de pouvoir au moins retourner sur une situation qui, évidemment, on peut l'appeler comme étant une situation hypothétique, tu sais, ce qui aurait pu survenir. Mais là, évidemment, il y a eu beaucoup d'eau sous les ponts depuis ce temps-là.
Puis finalement, ben écoute, ils sont allés chercher Dvorak en fin de compte. C'est pas comme si... La seule chose qui leur manque, c'est cet autre choix au repêchage ou cet autre espoir. On verra ce qui arrive. Si Jack Drury devient comme... c'est Jack, hein, son nom? Oui, si je ne me trompe pas, là. Est-ce que je me trompe? Non. Jack Drury qui a failli commencer la saison avec les Hurricanes, il a connu un bon camp. Si jamais il devient un bon joueur de soutien pour la Caroline, ou si Ryan Suzuki devient un bon attaquant top 6 dans leur système, on peut toujours questionner la décision que Marc Bergevin a prise. Il va sûrement plus être en poste quand ce temps-là arrive. Alors, mais c'est quelque chose qui va donner plus de vie à cet épisode-là, disons. Parce que ça va être intéressant de voir comment tous ces espoirs-là développent dans le système des Hurricanes, puis peut-être que les Canadiens auraient pu en avoir un.
Oui, absolument. Puis écoute, juste pour boucler la boucle, tu dis finalement que le Canadien est quand même allé chercher Christian Dvorak. Je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que les Canadiens avaient décidé de remplacer des joueurs qui avaient quitté par d'autres un peu de même format, de même acabit. Puis je pense que de tous les remplacements, celui de Dano par Dvorak est celui qui m'apparaît le plus cohérent et où le Canadien finalement va chercher sensiblement. C'est pas tout à fait la même gamme d'atouts. C'est pas, tu sais, je pense qu'ils ont des forces qui sont différentes, mais en termes de classe de joueurs, ça se ressemble pas mal. Puis le Canadien est allé chercher un deuxième centre aussi au prix, au salaire qui souhaitait. Qui souhaitait payer pour ce type de joueur-là. Et puis là, Dvorak encore sous contrat pour 4 autres saisons. Dans son cas, c'est intéressant que le Canadien l'ait sous contrat pour plusieurs saisons, mais je pense qu'il y a un enjeu qu'il ne faut pas perdre de vue avec le Canadien, alors que tout le monde, dans les prochaines semaines, va se mettre à parler de possible reconstruction, puis de qu'est-ce que le Canadien va pouvoir faire pour pouvoir se sortir d'impasse, etc. Il n'y a pas une seule équipe de la Ligue qui, en ce moment, dans sa formation, a plus de contrats à long terme signés que le Canadien de Montréal. Alors, il en a, en incluant Price, qui pour l'instant n'est pas sur la liste du joueur actif, mais il le sera de nouveau courant des prochaines semaines, on peut le présumer, sinon des prochains mois. Et même incluant chez Weber, parce qu'on ne peut pas en faire complètement abstraction, il y a 13 joueurs de l'équipe qui ont des contrats qui court pour encore 3 ans ou plus. Puis ça, il n'y a aucune équipe dans la Ligue qui en a autant. Donc, Marc Bergevin a un nouvel entraîneur-chef. Il a plusieurs contrats à long terme avec lesquels il est forcé de travailler. Cette équipe-là n'a pas énormément de marge de manœuvre. Puis elle est à côté contre le plafond salarial. Fait qu'elle n'a pas énormément de marge de manœuvre et de porte de sortie pour pouvoir s'améliorer. Fait que c'est le fun qu'un gars comme Dvorak soit encore sous contrat pour plusieurs années à un prix qui est somme toute modique et accessible, mais il y a peut-être d'autres contrats à long terme que le Canadien va dire « Ouf, celui-là, il passe un peu plus mal. »
Oui, puis pour boucler la boucle encore plus, c'est qu'on a commencé en disant que Marc Bergevin a passé sa saison morte en train de remplacer des joueurs qui ont quitté. Le seul gars qui n'a pas pu remplacer, effectivement, c'est Jesperi Kotkaniemi. Puis ce trou-là, ce trou de troisième centre, qui pour le moment est comblé par Mathieu Perrault. On verra s'il serait capable de le faire à long terme. Mais c'est ce gars-là qui aurait mis Jake Evans dans la chaise que l'organisation voulait le voir. Ce quatrième centre, gars qui peut jouer contre tous les adversaires difficiles, avoir des responsabilités quand même défensives et être capable de contribuer offensivement. Tout ce que Dominique Duchamp parlait de son quatrième trio était quand même basé sur le fait que les trois premiers centres de l'équipe soient capables de faire en sorte que Jake Evans peut être dans ce rôle-là. Puis en ce moment, c'est le seul gars que le Canadien a perdu qui n'a pas vraiment été remplacé dans l'entre-saison. Non, et ça leur fait mal, honnêtement. Peu importe ce que tu penses de Jesperi Kotkaniemi puis son potentiel et toutes les autres choses, c'est clair que le plan du Canadien, il fallait l'ajuster à cause de cette offensive-là, même si on reçut un très bon joueur en Christian Dvorak, et probablement sont une meilleure équipe aujourd'hui à cause de toute cette quasiment un échange-là. Mais quand tu y penses, le seul gars qui a jamais été remplacé, c'est Jesperi Kotkaniemi, puis beaucoup resté sur sur ce rôle-là de troisième centre.
Bon, ben écoute, je te laisse aller, Harpin. Va profiter de la Californie davantage pendant que nous, on va finir nos décorations de l'Halloween. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Super Athlétique. Si vous n'êtes pas abonné à athletic.com, la publication pour laquelle Harpin et moi travaillons, entre autres auprès de tous nos confrères dans la Ligue nationale, bien, vous pouvez le faire en profitant d'un rabais sur la première année de votre abonnement. Vous allez au athletic.com/supportathletique et ça va vous donner, donc c'est ça, un rabais pour la première année de votre abonnement. C'est toujours plus avantageux d'y aller par année que par mois. Donc athletic.com/supportathletique. Et puis, on va être de retour, nous autres, la semaine prochaine avec The Athletic Support en anglais. D'ici là, tout le monde, passez une bonne semaine et puis on se reparle bientôt. Bye bye!